Ben oui, allons le retrouver toujours en Floride. Quoi qu'on va parler un petit peu plus de hockey quand même aujourd'hui parce qu'il y a des choses intéressantes. Salut Philo!
Salut!
Notamment, et on va commencer avec ça, par les commentaires de José Théodore concernant Carey Price.
Oui, j'ai lu l'article de José Théodore ce matin sur le site de TVA Sports, puis j'ai trouvé ça intéressant. En fait, José revient sur son épopée à lui dans l'uniforme du Canadien, puis en disant que lorsque Yaroslav Halak est arrivé, ça a changé un peu la donne. T'sais, il a senti la pression, il a senti que là, il y avait un jeune derrière lui qui poussait puis qui voulait vraiment son poste. Puis après une saison difficile, ça l'avait vraiment aidé à s'assurer d'être là au maximum, à tous les jours, à travailler fort. Puis il se demande si, il dit Antti Niemi puis Al Montoya, c'est bien beau, là, mais en même temps, ça peut pas non plus te forcer à être à ton meilleur jour après jour quand ton poste plus stick.
On l'a traité comme un enfant roi, on l'a surprotégé Carey Price depuis une couple d'années.
Ben, c'est ça. Puis là, je sais qu'il y en a qui nous écoutent puis nous disent on vient de le signer pour 8 ans. Il faudrait pas y faire passer le message comme quoi on n'a plus confiance en lui. Puis ça, je le comprends. Mais en même temps, par exemple, si un Charlie Lindgren était son second la saison prochaine, ou même à la fin de cette saison, juste pour lui montrer que, par exemple, si Lindgren va bien, connaît une bonne performance, ça se peut que ce soit lui dans le filet 2 soirées consécutives. Là, veut pas, ça te force vraiment à être à ton meilleur soir après soir. Puis, mais je sais que ça peut aussi causer des conflits parce qu'à Montréal, quand on a, puis ça, le Canadien le sait très bien, quand on a une rivalité de gardien de but, ça peut devenir pesant sur le dos de l'entraîneur, ça peut devenir pesant sur l'organisation parce qu'on finit qu'on parle juste
de ça. Oui, mais si on n'est pas capable de prendre cette pression-là, Jérémy, on a un problème. D'ailleurs, tu soulèves des points intéressants. Moi, je pense que du côté des Sénateurs, on a fait la même erreur cette année. On n'a pas donné assez de matchs à Mike Condon. Ça l'a affecté, lui, parce que quand il allait devant le filet, ben il était pas hot. Puis on dirait que ça n'a pas mis assez de pression sur Anderson, contrairement à l'an dernier.
Oui, ben non, tu as raison. Puis je pense qu'à Ottawa, c'est encore plus flagrant que normalement, on aurait dû diviser les matchs plus équitablement. Tu sais, à Montréal, on s'entendait qu'on le savait que Carey Price allait être là. Bonne performance, mauvaise performance. En tout cas, à Ottawa, fait que je pense que c'est pour ça un peu que Condon a été peut-être un peu ébranlé par le fait qu'on ne l'a pas utilisé aussi souvent qu'il l'espérait. Puis ça a fait en sorte que justement, il était moins alerte quand on
était. Mais tu sais, pour revenir à Price, là, on s'entend, il est clairement le numéro 1 à Montréal. Sauf que c'est pas l'entraîneur-chef non plus. Moi, j'aime pas ça que c'est le gardien qui décide quand est-ce qu'il veut jouer ou pas.
Oui, t'as raison. Puis tu sais, on n'a pas encore exactement toutes les réponses à savoir pourquoi Carey Price n'était pas devant le filet à Las Vegas. Normalement, quand il n'y a pas 2 matchs en 2 soirs, il est toujours là. Est-ce que c'est lui qui a demandé une soirée de congé? J'en doute. Mais, tu sais, ceci dit, ça veut peut-être dire que la relation entre de confiance entre le gardien et l'entraîneur commence peut-être à s'effriter un peu. Et puis, à l'aube du début d'un contrat de 8 ans, ça, c'est pas nécessairement bon signe non plus.
Je pensais que t'allais me dire à quelques jours de la date limite des transactions.
Non, ça ne pas tant que ça. Là, faut pas exagérer quand même.
On va se calmer le pompon. Hockey Canada qui s'explique finalement, Jérémy, concernant la saga Derek Roy et René Bourque.
Ouais, ben écoute, je veux juste expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé. En fait, que Hockey Canada dit, nous, on a fait un genre de tournage, puis on a demandé aux joueurs de se nommer. Et, ben clairement, Derek Roy a donné son nom de cette façon-là, puis René Bourque, qui est quand même un anglophone, pour le mentionner, l'a dit à l'anglaise. Mais bon, je ne sais pas dans quel contexte ce tournage-là a été fait. Peut-être que justement, tous les caméramans, tous les gens de l'éclairage, tout le monde était anglophone, puis Derek, pour mettre tout le monde à l'aise, mais il a dit son nom à l'anglais, je ne sais pas. Puis peut-être que lui ne savait même pas que ça allait être interprété comme « je veux que mon nom soit dit comme ça dans l'amphithéâtre ». Fait que je pense qu'il y a eu un manque de communication à ce niveau-là. Puis tu sais, que ce soit Derek Roy chez les francophones ou Derek Roy chez les anglophones, je pense que Derek est prêt à accepter les 2 connotations. Puis si l'annonceur maison l'avait dit avec une consonance anglophone, je pense pas qu'il y aurait eu un problème avec ça non plus. Marc-André Gragnani, entre toi puis moi, là, comment tu dis ça en anglais, Marc-André Gragnani? Sérieux, là, ça se dit pas. En toute façon, son nom de famille, c'est un nom à connotation italienne. Puis je vais dire une affaire.
C'est comme Jérémy Filosa.
C'est ça. À chaque fois qu'un anglophone essaye de dire un nom en italien à l'anglaise, ça sort tout croche. Comprends-tu? Je sais même pas d'où ça a pu partir tout cela. Peut-être René Bourque, c'est le seul vraiment anglophone qui aurait pu le demander. Mais même à Montréal, l'annonceur maison annonçait ses buts en tant que René Bourque, puis j'ai jamais entendu René dire quoi que ce soit par rapport à ça.
Bon, on va passer à un autre appel et justement, on va terminer avec un petit mot sur l'impact, Jérémy.
Ben écoute, l'impact, c'est aujourd'hui, c'est entraîné. Prochain match demain. Ils ont 3 victoires consécutives. Anthony Jackson-Hamel, celui qu'on appelle le bombardier de Limoilou, n'a toujours pas marqué, le jeune qui a connu quand même une bonne saison, jeune Québécois avec l'impact la saison dernière. Si tu veux, on va l'écouter sur ses réflexions par rapport aux 3 premières victoires au camp d'entraînement, même si son jeu à lui en général jusqu'à maintenant.
C'est bien, on voit une équipe qui est beaucoup plus solide défensivement. Après ça, pour nous devant, c'est un rôle qui est un peu différent de l'année passée. Donc on joue beaucoup plus bas, beaucoup plus proche du bloc. C'est bon pour l'équipe parce que ça force l'autre équipe à passer par les côtés. Bon, c'est sûr que j'aimerais marquer. C'est ça, non, mais c'est de continuer à la préparation. J'ai manqué un peu à cause d'une blessure au pied. Donc moi, c'est juste de continuer à me préparer, continuer à travailler physiquement, puis ça va bien aller.
Donc, on comprend qu'il revient d'une blessure. On va lui donner un petit peu de temps, Jérémy.
Oui, exactement. En espérant peut-être qu'il puisse obtenir un départ demain soir contre Philadelphie. Je pense que ce serait une bonne chose parce que jusqu'à maintenant, c'est le vétéran Matteo Mancuso qui a eu la majorité des minutes à cette position-là.
OK, on ne te dérange pas plus longtemps. Alors, profite du beau temps et on t'écoute tantôt aux amateurs de sport.
Merci beaucoup.
Salut, Jérémy. Bye-bye.
Bye.